Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au micro, Alain Hiron Mouchige. Le pape François dit penser à la République démocratique du Congo, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure particulièrement dans l'Est, où les affrontements se poursuivent dans l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Vous l'entendrez dans ce journal. Le président de la République a inauguré hier samedi la piste d'atterrissage de l'aéroport national de Ndolo à Kinshasa. Il a en même temps lancé les travaux de modernisation de son aérogare. Paul Sapou, président de la Ligue des électeurs et défenseur des droits de l'homme, est l'invité de ce journal. Il fait plusieurs annonces sur le processus électoral en RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Ces propos sont du pape François dans une vidéo-message publiée ce samedi adressée aux populations de la RDC et du Soudan du Sud. Le souverain pontife exprime son regret d'avoir été contraint de reporter sa visite dans ces deux pays. Il appelle surtout les responsables politiques à tourner la page pour ouvrir des nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine ainsi que de développement. On écoute le pape François.
Je voudrais vous dire que je vous porte plus que jamais dans mon cœur. Surtout en ces semaines, je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous éprouvez depuis trop longtemps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure particulièrement dans l'est du pays, où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Chers amis congolais et sud-soudanais, vous avez tous une grande mission à commencer par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir des nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine, de développement. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir, vers les nombreux jeunes qui peuplent vos terres luxuriantes et blessées, les comblants de lumière et d'avenir. Ils rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux en particulier, il faut déposer les âmes, vaincre les rancunes et créer de nouvelles pages de fraternité.
En Ituri, le tout premier dialogue intergénérationnel sur la participation des jeunes au processus de paix s'est clôturé vendredi à Bounia. Cette rencontre, organisée par le Conseil national des jeunes et l'ambassadeur de la Charte africaine de la jeunesse, a réuni plus de 50 jeunes, des hommes politiques, des leaders communautaires, ainsi que des autorités provinciales. Selon les organisateurs, l'objectif était de favoriser un dialogue franc entre la jeunesse et les aînés sur les responsabilités de chaque génération dans le processus de paix dans cette province. Reportage Clarisse Zinloula.
Venus des cinq territoires de l'Ituri, ces jeunes sont déterminés à contribuer au retour de la paix effective dans leur milieu. Ce dialogue était pour eux une occasion de rappeler aux aînés le rôle qu'ils ont joué dans la crise que traverse l'Ituri. C'est notamment la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse pour des intérêts sociopolitiques. Ces jeunes ont également recommandé aux aînés des attitudes à adopter pour les accompagner dans la reconstruction de leur province.
S'il y a un problème, devons mettre dans la paix. Au lieu de mobiliser les gens dans les troubles, nous devons avoir la paix pour que notre milieu soit sécurisé.
De leur côté, les aînés ont reconnu cette attitude manipulatrice que la plupart des leaders politiques et communautaires adoptent à l'égard de la jeunesse. Ils invitent les jeunes à ne pas céder aux manipulations qui détruisent leur avenir et déstabilisent la province. Le président de la communauté Zunana demande au gouvernement de punir sévèrement ceux qui instrumentalisent les jeunes. Le professeur Mateso Zorabo.
Parce que ici, vous indexez la jeunesse d'être manipulée. Mais également, il faut aussi remonter aux manipulateurs.
Signalons que ce dialogue intergénérationnel a été installé en Ituri comme cadre permanent pour faciliter le dialogue entre les jeunes et les différents leaders pour la paix et le développement de l'Ituri. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
À Kinshasa, les avions vont désormais atterrir sur une piste rénovée à l'aéroport de Ndolo. Après 6 mois de travaux de renouvellement de l'asphalte par l'entreprise Malta Forest, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce samedi 2 juillet la piste d'atterrissage. En même temps, il a lancé les travaux de modernisation de l'aérogare. Une modernisation qui va concerner dans l'ensemble 15 aéroports du pays dans le cadre d'un programme du gouvernement. Billy Yvan Lutumba.
Longue de 2300 mètres à sa construction, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ndolo n'en dispose plus que 1600 sur 30 mètres de large. Des constructions anarchiques et spoliation ayant englouti 700 mètres. À ce jour, cette piste présente un état neuf, sans crevasses ni nid de poule, tel que le réclamaient les opérateurs d'aviation. Au même moment, les travaux de réhabilitation de la tour de contrôle sont aussi achevés et les équipements renouvelés. Commandant Alex Thiaz de Kin Avia de l'avion qui a atterri ce samedi juste après la cérémonie d'inauguration, ce après 6 mois de fermeture.
Nous venons d'atterrir sur un billard parce que effectivement la piste était dans un état assez détérioré, mais maintenant vraiment la différence est notable et ça nous fait très plaisir. Nous avons communiqué avec la tour il y a quelques minutes pour l'atterrissage et bien sûr nous avons eu vent des nouveaux équipements. Les compagnies aériennes qui pourront atterrir ici verront le changement.
D'après le DG de la RVA, dès cette semaine, l'aéroport sera réouvert au vol. Créé depuis 1924, la piste fut asphaltée en 1942 et depuis, les avions atterrissaient ainsi sur un vieil asphalte souvent critiqué par les opérateurs et les voyageurs craignant tout risque d'accident. Depuis l'aéroport de Ndolo, Billy Yvan Lutumba, Radio Okapi.
La ville de Kenge sera bientôt électrifiée. Le gouvernement provincial du Kwango vient de signer un contrat avec des entrepreneurs chinois pour la construction des lignes sous tension allant du parc agro-industriel de Bukangalonzo jusqu'au chef-lieu de la province. Ce projet d'électrification ne concerne pas seulement la ville de Kenge, mais aussi les villages environnants. C'est le vice-gouverneur du Kwango, Saturnin Tangandandu, qui l'annonce. Selon lui, cette électrification aura un impact positif dans la province du Kwango, car elle va booster son développement. Il est joint au téléphone par Irène Boma.
Je confirme cette information selon laquelle la ville de Kenge sera bientôt électrifiée. Les démarches ont été déjà accomplies à partir de Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial a signé un contrat avec les consortiums d'entrepreneurs chinois à partir de l'Angola. Depuis à Kinshasa, ils ont finalisé avec notre patriote Christophe Mbosso Kouriakouanga, le président de l'Assemblée nationale, le courant, part à partir des Maluku, sont en train de vérifier les lignes jusqu'au point de chute des parcs agro-industriels. Le parc agro-industriel est juste à Kenge, parce que nous avons des lignes haute tension. Et les travaux sont en train d'être effectués à partir du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous savez, le courant a un impact énorme lié au développement de notre province. Et comme ça, le courant, je ne pense pas qu'il y aura installation des industries, des usines, ainsi de suite. C'est le courant qui doit en principe booster le développement de la province, non seulement à Kenge ville, mais aussi à les villages environnants.
Au Nord Kivu, plusieurs coopératives ont déjà abandonné leurs actions suite à l'activisme des groupes armés dans les territoires de Beni et Lubero depuis presque une décennie. Cette situation est à la base de la rareté de quelques produits agricoles, mais surtout de la hausse de leur prix sur le marché. C'est ce qu'ont déclaré les membres de certaines coopératives qui ont organisé une séance d'échange ce samedi à Butembo pour célébrer la 28e édition de la Journée internationale des coopératives instituée par les Nations Unies chaque premier samedi du mois de juillet. Sous le thème « Les coopératives construisent un monde meilleur », ces organisations plaident cependant pour le retour de la paix dans l'est du pays. C'est ce qu'explique ici Muindo Kisoki Lukando, l'un des organisateurs de cette activité au micro de Grévis Salumu.
Il y a des coopératives qui ont été contraintes de laisser leurs exploitations à cause de l'activisme des groupes armés. Il y a beaucoup de tonnes de produits agricoles, copés sûrement beaucoup de millions de dollars qui ont été consommés. On est obligé seulement de se concentrer dans des zones qui sont un peu sécurisées, mais en tout cas dans la région, surtout le territoire de Beni, les actions des coopératives sont en train de souffrir à cause de l'insécurité. La conséquence, c'est qu'il y a hausse d'abord des prix sur le marché. Donc le produit qui était reconnu d'avance comme étant des produits officiels qui ne manquaient pas, ils ne sont plus sur le marché. Même en territoire de Lubero, les coopératives qui font font la pomme de terre et tout comme ça, elles ne les font plus d'une façon aisée. Ces coopératives fonctionnent à moins de 40% de leur fonctionnement normal qu'on connaissait auparavant. Donc leurs entrepôts sont presque vides. Il y a d'autres coopératives qui sont en train de virer leurs actions vers d'autres aspects qui n'étaient pas des aspects qu'elles faisaient auparavant. On doit instaurer un climat de confiance entre les populations et les services de sécurité. On propose à ce que les autorités puissent encore mettre un peu plus d'efforts sur le plan sécuritaire. Ça peut nous aider à regagner encore nos milieux de travail d'avant.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, une mère et trois de ses enfants sont morts dans un incendie qui s'est déclaré au camp militaire Kibati, bataillon régiment situé sur l'avenue Kibati dans la commune de Kampemba. Des témoins trouvés sur place renseignent que cet incendie serait causé par un court-circuit et les mauvais raccordements des câbles électriques. Les détails avec vous, Jean Gandou.
Des sources trouvées sur place renseignent que l'incident est survenu vendredi aux environs de 23h, juste au moment où la SNEL venait de rétablir le courant électrique. Après le déclenchement de l'incendie, c'était les sauve-qui-peut au fur et à mesure que le feu avançait, parce que toutes les maisons construites en bâche, en tôle et en bois sont parties en fumée et les biens rendus en cendres. À notre passage ce samedi, nous avons trouvé les quatre corps calcinés, tous membres d'une même famille, encore dans les décombres. D'un côté, l'image la plus marquante est celle d'une mère calcinée avec son bébé de 3 mois serré dans ses bras. D'un autre, les rescapés, les curieux et autres membres des familles des disparus, assis sous un abri de fortune, morts dans l'âme, contemplaient les quatre corps inertes. Un peu plus loin, la fumée s'est dégagée encore des décombres pendant que les quatre cercueils étaient bien rangés pour accueillir ce qui reste des corps des disparus. Ce sont plus de 144 familles qui restent sans abri, d'où le cri de détresse de Stetor Muloko, président des enfants militaires.
Aux autorités de penser aux familles de militaires qui viennent de perdre leur maison et leur famille. Et ce n'est pas facile de voir les familles qui manquent quoi manger et qui manquent où habiter.
Pour sa part, le colonel Charles Magitayar, commandant de la 22e direction régionale CECAS FRDC, a indiqué que toute hiérarchie militaire est au courant de ces drames. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En Nord-Kivu, plus de 20 maisons parties en fumée ce samedi dans la cité minière de Moubi. C'est dans le groupement Utanda, secteur de Wanyanga, à environ 36 km du chef-lieu du territoire de Walikale. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais les sources de la société civile, du territoire et d'autres organisations locales parlent d'un acte criminel supposé. Le point avec Gabriel Wamenya.
C'est aux environs de 5h du matin de ce samedi qu'une panache de fumée a été aperçue dans la maison d'un habitant au cœur de la cité, dans les quartiers Mungu Atosha, sur l'avenue Kafankuba. Très vite, l'effet s'est propagé sur les toits d'autres habitations et maisons de commerce, boutiques, bistrots et bureaux d'autres services de l'État, ainsi que quelques organisations locales n'ont pas échappé à la folie de la flamme. Pas de dégâts humains, mais le bilan en termes des biens de valeur calcinés dans les boutiques et maisons privées est important, affirme Fiston Misona de la Société Civile du Territoire de Walikale. Selon les premières enquêtes menées par la police sur les sites du sinistre, l'hypothèse d'un acte criminel prémédité n'est pas exclue pour ce deuxième cas d'incendie depuis le début de cette année dans la cité de Moubi, précise les mêmes sources. Misona affirme que les dégâts ont été limités de justesse par les habitants de la cité. Ces derniers ont fait usage des tronçonneuses afin de délier rapidement les toitures de quelques maisons contiguës. C'est ce qui a pu stopper la propagation des rafales de flammes sur d'autres habitations, affirme un autre cadre de base à Moubi, Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée dans la province du Kwilu. Le gouverneur Willy Ichunda la met en garde toute personne qui tenterait d'utiliser ces moustiquaires à d'autres fins en dehors de l'objectif pour lequel elles sont distribuées. Selon lui, ces moustiquaires sont donnés à la population afin d'être installés correctement sur le lit et la protéger contre les piqûres des moustiques qui transmettent les microbes du paludisme. Il fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour sanctionner tous ceux qui feront mauvais usages des dites moustiquaires. Irène Boma.
Le gouverneur du Kwilu s'est dit préoccupé de constater depuis toujours une utilisation abusive des moustiquaires imprégnés d'insecticides mis en sigle par la population. Selon Willy Itundala, il y a même des pêcheurs qui les utilisent comme filets de pêche. Certaines personnes s'en servent pour clôturer leurs parcelles ou leurs jardins et les jeunes gens les utilisent comme filets dans leur terrain de football. Cette fois-ci, toutes ces pratiques doivent prendre fin et les récalcitrants seront poursuivis à a-t-il martelé.
On a pris des dispositions. Cette fois-ci, tout contrevenant sera arrêté. Tous les services de sécurité sont à la veilleuse. La police, la ANR, nous serons derrière tous ceux qui vont faire un mauvais usage.
Du côté de la population, certaines personnes saluent cette mesure prise par le gouverneur Itundala et condamnent aussi tous ceux qui font mauvais usage des mildes.
On donne cela pour protéger la population. On donne pas cela pour d'autres fins. Il y en a même qui reçoivent cela, mais les enfants dorment sans moustiquaire et ils ont la malaria. Alors pour cela, j'appuie le gouverneur par rapport aux mesures qu'il a prises.
Willy Itundala a aussi mis en garde tous les prestataires de santé qui, selon lui, se donnent à vendre ces moustiquaires que l'on trouve sur les marchés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Cinq personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un séisme peu profond de magnitude 6 qui a secoué tôt samedi 2 juillet le sud de l'Iran selon un premier bilan diffusé par l'agence de presse étatique IRNA. Selon la télévision d'État, 49 personnes ont été blessées suite à trois séismes successifs qui ont secoué la province d'Hormozgan, notamment le village de Sayeh Kosh, le plus touché, rapporte l'AFP.
L'invité.
Notre invité est Paul Nsapu, président de la Ligue des électeurs et défenseur des droits de l'homme. Il fait plusieurs annonces sur le processus électoral en RDC, notamment l'accompagnement du processus électoral par l'éducation civique et électorale, la sensibilisation de la population électrice, l'atelier de mise à niveau des observateurs et le renforcement du cadre de concertation avec la CENI. Paul Nsapu s'entretient avec Jeff Ngoy.
Paul Nsapu, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Après une longue accalmie, vous voilà de retour. Peut-on dire que c'est le grand retour de la Ligue des électeurs sur la scène électorale?
Tout à fait, mais on était toujours présents sur la scène. Malgré la distance, la Ligue a fait son travail dans d'autres axes, notamment l'axe droit de l'homme, l'axe protection des acteurs sociaux et même certaines personnalités du monde politique, et également l'axe, si vous voulez, de plaidoyer pour le bien de la République démocratique du Congo par rapport à d'autres enjeux dans d'autres sphères au niveau international.
Vous venez d'organiser une matinée électorale axée sur l'accompagnement du processus électoral. En quoi se traduit concrètement cet accompagnement?
Oui, cet accompagnement classique, traditionnel. Voilà, on a constaté des hauts et des bas dans tout ce qu'il y a eu comme dispensation électorale passée jusqu'aux dernières élections. Et il y a des ratés, il y a des avancées, il y a des choses qu'il faut améliorer. Voilà pourquoi mon retour coïncide aussi avec le grand retour de la Ligue des électeurs sur cette question, la question électorale, avec des partenaires qui sont connus et qui sont là sur place ici, et même des partenaires institutionnels d'ailleurs, c'est-à-dire du monde extérieur. Et donc c'est une pression, c'est quelque chose qui est demandé. Et nous sommes rentrés pour préparer le peuple congolais à s'assumer en tant que population électrice.
Et comment comptez-vous vous y employer? Comment comptez-vous préparer la population à ces échéances électorales? De quelle manière comptez-vous le faire?
Oui, le programme en soi, c'est l'éducation civique électorale constituée par des campagnes de sensibilisation et des formations de groupes ciblés pour échanger, transférer des compétences, les techniques sur comment on encadre un processus électoral dans toutes ses péripéties, avant, pendant et après les élections. Ça, c'est l'expertise de la Ligue des électeurs, qui est une ONG pionnière dans ce domaine et qui a pratiquement formé tous les ensembles qui existent et des organisations en cette matière, et même ceux de tendance ou bien ceux de confession religieuse, comme l'histoire de la Ligue peut vous l'indiquer. Et donc, nous ferons cela sur l'ensemble du territoire national. Et après ce que j'ai annoncé à cette conférence, un atelier national de mise au point, d'évaluation de préparatifs, si vous voulez, des élections, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs des élections, j'ai cité la CENI.
Est-ce que la Ligue des électeurs a déjà préparé aussi la formation de ses observateurs à déployer lors des élections?
Comment ça va se passer? Mais ils existent pas moins de 50 000,
observateurs
sur l'ensemble du territoire national, et c'est même plus que ça. Et ce sont ces gens-là, ils ne sont pas tous morts. La plupart, ils sont vivants, ils sont là, ils sont dans les 26 provinces. Lors des formations qui vont suivre, de mise à niveau et autres, on va recourir à eux. Donc, les ressources humaines sont là, hein, des gens avertis sur la question, avisés sur la question électorale. Et ça sera très facile. Bon, et puis, nous allons former d'autres. Il y a beaucoup de demandes. Nous sommes là, et même le média qui nous ont approchés, ils ont besoin de cette réactualisation pour préparer le peuple. Donc c'est notre tâche à nous tous. Je profite de votre micro pour dire que d'ici là, nous allons demander aux anciens observateurs formés de réactualiser notre fiche d'enregistrement et tout, puisque nous avons besoin de tout le monde. Et voilà, et d'ici là, on passera chez vous aussi pour nous aider à amplifier cet appel, cet écho, pour que tout le monde se mette en ordre utile.
La CENI peut compter sur l'accompagnement de la Ligue des électeurs.
Tout à fait. Merci.
Fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. À la présentation, Alain Irung Mouchige, et à la technique, Jean-Noël Mokondo.